celui de vous priver de dessert, si je prêche longtemps. Non, je ne veux pas vous faire ça, hein, mais c'est... Voilà. Je vous lis dans l'évangile de Jean, chapitre 4, une histoire qui est bien connue par ceux qui connaissent la Bible, l'histoire de cette femme samaritaine qui va rencontrer Jésus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as des vrais. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ ?» On sait que les gens du village vont venir écouter Jésus et ils reviendront avec cette conviction « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ». Voilà un échange entre Jésus et cette femme samaritaine assez tendu. Il est différent de tout ce que l'on peut lire dans les autres récits de l'Évangile. Souvent, c'est beaucoup plus facile. Ici, c'est tendu. Pourquoi ? Parce que souvent, dans l'Évangile, ce sont des personnes qui viennent vers Jésus. Elles ont un besoin, elles sont en souffrance et elles viennent vers Jésus. Ici, c'est l'inverse. C'est Jésus qui provoque l'entretien. C'est Jésus qui provoque l'échange. C'est Jésus qui va vers elle. Et manifestement, elle n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie de causer. Et elle essaye de se débarrasser de ce Jésus qui va comme lui coller, essayer de... Mais elle va essayer de s'en défaire. On la sent très agressive, ironique, quand elle dit, ben, donne-moi à boire, comme ça j'ai plus à boire. On sent aussi qu'elle essaye d'échapper un petit peu. Hein, quand on le voit qu'il lui met la pression sur le plan familial, elle cherche une échappatoire, elle parle religion, après elle parle du Christ. On sent que c'est difficile. Elle est tendue, agressive. On sent une femme qui a été blessée par la vie. Ce que j'aime, c'est que Jésus, là, il y va et il lui met une certaine pression. Jésus voulait lui faire comprendre certaines choses. Et je voudrais résumer un petit peu cette histoire en insistant sur ce que Jésus voulait lui faire comprendre. Parce que ce que Jésus voulait qu'elle comprenne, nous avons tous besoin de le comprendre encore cet après-midi. La première chose qu'elle devait comprendre... Et ce que Jésus voulait dire, c'est que tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. C'est élémentaire, mais c'est bien de le dire. Cette femme, il semble que la question de Dieu avait été mise au second plan. Quand elle a vu qu'elle parlait avec un prophète, quelqu'un qui disait des choses de Dieu, elle a ouvert le chapitre religion. Autrement, c'était complètement l'écart. C'était mis de côté, ça ne la concernait plus. Et quand Jésus lui parle, il dit, écoute-moi, je n'ai pas autre chose à faire. Moi, j'ai ma famille à nourrir, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu chercher de l'eau et je viens à midi parce que je n'ai pas le temps ou parce que j'ai envie de voir personne. Elle parle de cette manière-là. Mais Jésus, d'emblée, va mettre la pression. Ah, si tu connaissais le don de Dieu. Et celui qui te parle, c'est toi-même qui aurais demandé de l'eau vive. C'est vraiment une chose qu'il faut réaliser. Tu as besoin de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre situation, même si je commence à faire un petit peu connaissance, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as besoin de Dieu. Que tu aies 12 ans, que tu en aies 25, 70, tu as besoin de Dieu. Tu en as besoin pour ta santé, tu en as besoin sur le plan matériel, peut-être que tu vis des choses difficiles au plan professionnel. On a un Dieu qui est compétent dans tous les domaines. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, il dira, et j'aime bien ce verset parce qu'il nous montre qu'il peut agir dans tous les domaines, notre Dieu. Et quand bien même quelqu'un dirait, mais moi je n'ai pas de besoins très spéciaux, tout va bien, et bien même dans ce cas-là, si tout allait bien, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu parce que tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin de Dieu parce que tu as besoin qu'il agisse dans ta vie. Tu as besoin d'épanouissement. Tu as besoin de trouver du sens à ta vie. Tu as besoin d'être sauvé et d'être pardonné de tes péchés. Tu as besoin de Dieu et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel de réaliser son besoin de Dieu. Certains pensent que la foi, c'est inné. Mais c'est faux. La foi, ça vient avec le besoin de Dieu. Quand je ressens le besoin de Dieu, là je suis prêt pour entrer sur le terrain de la foi. Et la plupart d'entre nous ont devenu la foi comment ? Parce qu'un jour on avait un besoin d'être aidé. Alors on ne savait pas trop. Il y a le besoin a fait naître la foi. Et bien souvent les gens qui viennent à la foi, c'est parce qu'elles ressentent le besoin de Dieu. Il y a quelque temps sur l'assemblée de Vienne, on avait une dame âgée qui venait. Alors elle commençait à venir un petit peu dans une occasion comme celle-ci. C'était au repas de personnes âgées, alors ça lui plaisait bien, c'était sympa, on mangeait bien, on mangeait des bons gâteaux, c'était... Voilà, c'était... Et pendant 3 ans, elle est venue, elle ne comprenait rien, mais de rien. Je lui parlais, je la testais, j'allais la voir, le voile était là, et alors elle dit, oui, c'est bien, mais on sentait ses réponses qu'elle ne captait rien. Et puis un jour, elle s'est retrouvée dans sa maison, et elle était en train de s'asphyxier parce que dans son poêle à gaz, ou je ne sais pas comment, ça dégageait du monoxyde de carbone. Et là, elle est en train de s'évanouir. Et c'est le Seigneur qui l'a réveillée. Jésus, je te réveille. Et là, elle a crié à Jésus, secours-moi, sauve-moi. Et à partir de là, elle a senti que Jésus pouvait l'aider. Jésus est devenu réel. Elle a compris qu'elle pouvait compter sur Jésus. Le besoin était là maintenant. Et à partir de là, le voile s'est déchiré. C'était plus la même. Elle a commencé à comprendre, les choses se sont posées, elle a découvert la grâce, elle a donné son cœur à Jésus, mais c'est le besoin qui a fait jaillir la foi. Tu as besoin de Dieu. Peut-être que tu penses que tu n'as pas besoin, tu es dans l'erreur. Et si tout va bien aujourd'hui, ça changera. Je ne veux pas être un mauvais prophète dans ce sens-là, mais la vie, elle est difficile, comme je le disais ce matin, et tu as besoin de Dieu pour le salut de ton âme. La deuxième chose que Jésus veut lui faire comprendre, c'est que Dieu nous connaît parfaitement, et même mieux que nous-mêmes. Nous, on a des fois du mal à se connaître, et puis il faut dire qu'on est bon pour s'illusionner, hein, pour se tromper sur nous-mêmes. Hein, c'est comme le gars qui a été moyen en foot, et puis avec le temps, il s'imagine avoir été un super joueur de foot. Hein. Des fois, on peut se tromper avec le temps, mais Dieu, lui, nous connaît exactement, il connaît notre parcours. Il ne se trompe pas sur nous. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et cette femme, elle a... Quand elle a parlé avec Jésus, elle a compris qu'on n'échappe pas au regard de Dieu. Elle était probablement dans une espèce de fuite. Et vous savez, c'est vite fait de fuir. On est tenté de fuir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de moyens. Hein, on peut fuir dans des choses qui sont l'alcool, la drogue. On peut fuir dans le sport. On peut fuir dans le travail. On peut fuir dans beaucoup de choses. Et Jésus, là, elle va sentir le regard de Jésus sur sa vie. Le regard de Dieu sur sa vie. Et elle va comprendre que Dieu nous connaît parfaitement. Peut-être qu'elle-même, avec son histoire et son parcours, elle est arrivée de se persuader de certaines choses et de donner sa version. Mais Jésus, là, en quelques instants, tu as eu 4 maris, Celui que tu as n'est pas le cinq maris. Celui que tu as n'est pas le mari. Elle sent que Dieu la connaît parfaitement et qu'on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Et je crois que c'est un regard qui est vraiment important. On a un Dieu qui connaît nos cœurs. Lorsqu'on vient à Dieu, souvent on découvre un Dieu mais qui connaît notre vie, qui a les yeux sur nous depuis longtemps. Il nous connaît parfaitement. Pourtant, c'est étonnant la nature humaine, comment elle pourrait s'illusionner et se tromper. Dieu te connaît. Combien de personnes sont venues dans nos réunions du dimanche après-midi et lorsque le prédicateur a ouvert la Bible, leur vie a été comme dévoilée. Comme si Dieu leur disait, voilà ta vie, c'est ça, ça, ça et ça. C'est très souvent, et beaucoup de gens ont vécu cela. Je pense à un homme qui est venu un jour la première fois dans un culte pendant l'été. Alors c'était un rasta, il est arrivé avec ses tresses. Mais le premier culte, Dieu a dévoilé sa vie. Tu es ça, ça, ça et ça. Bouleversé. Il s'est donné son cœur au Seigneur. Aujourd'hui, ce frère, c'est un rayon de soleil dans l'église. Il respire la grâce, il respire la vie. Je suis toujours émerveillé voir comment Dieu a su l'atteindre. Mais un culte, et Dieu a dévoilé sa vie. Et il a réalisé qu'on n'échappe pas au regard de Dieu. La troisième chose que je veux dire, et ça se décline, c'est que Dieu s'intéresse à ta vie. Jésus s'intéressait à la vie de cette Samaritaine. Peut-être elle se disait, de toute façon, moi, ma vie, ça intéresse personne. Elle s'était peut-être dit, de toute façon, moi, c'est fini, mais elle découvre que Jésus, il avait les yeux sur elle. Il s'intéressait à sa vie. Il y a parfois des personnes qui en arrivent à penser de cette manière-là. Ma vie, elle intéresse personne. Je voudrais te dire, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'intéresse à toi. Alors, il ne s'intéresse pas à toi pour ce qu'il pourrait profiter de toi. Ça, c'est dans notre société, ça fonctionne comme ça. Quand on intéresse les gens, c'est toujours par rapport à ce qu'on peut leur apporter. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Dieu s'intéresse à nous par rapport à parce qu'il est amour et par rapport à ce qu'il peut lui nous apporter. Il peut donner du sens à notre vie, il peut donner de la valeur à notre vie. Mais Dieu s'intéresse à nous et je crois qu'en quelques instants, dans ce contact avec Jésus, elle va réaliser qu'elle était digne d'intérêt. Peut-être que tu penses que tu n'es pas aimable. Et c'est vrai que dans un sens, on n'est pas aimable à cause de notre péché, à cause du mal qu'on a fait. Si notre vie était dévoilée sur cet écran, à n'importe lequel, on aurait envie de dire des choses, on voudrait censurer et cacher. Mais Dieu, malgré ça, et lui qui connaît parfaitement ce que nous sommes, il s'intéresse à nos vies. Il est celui qui nous aime, et il est celui qui a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et ça, je trouve que c'est beau. Jésus dira à un moment donné que les oiseaux du ciel ont de la valeur, mais il dira que nous, on a encore plus de valeur qu'eux. Dieu nous aime, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Je crois que les gens ont besoin aujourd'hui de l'entendre, que Dieu les aime, que Dieu est amour alors, et qu'il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Il y a autre chose que Jésus va faire comprendre à cette femme. Tu peux connaître Dieu autrement. On voit que cette femme, elle pense avoir fait le tour de Dieu. Elle pensait que sur la question religion, foi, elle connaissait tout, elle n'avait rien à apprendre. Comme beaucoup de gens aujourd'hui. Dès qu'on leur parle de Dieu, d'évangile, ils pensent connaître, alors qu'ils ne connaissent pas. Et cette femme, elle pensait donc, dès qu'ils ont parlé religion, elle a parlé de ce qu'ils croyaient, du puits de Jacob, etc. Et Jésus va leur dire, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Mais Jésus veut l'emmener plus loin. Il veut l'amener à connaître Dieu, à découvrir Dieu. Et ça, c'est vraiment le programme de Dieu. Nous avons un Dieu qui veut se faire connaître, un Dieu qui veut se révéler, qui veut se montrer dans tout ce qu'il est, bien sûr dans sa grandeur et sa puissance, dans son amour, mais dans son amitié, dans sa capacité à partager notre quotidien. Dans tous les domaines, il est celui qui veut changer notre cœur. Il y a tellement de choses à découvrir sur Dieu. On peut découvrir ce que je disais ce matin, sa grâce. Et ça, c'est précieux. Beaucoup de gens, des fois, ont une image de Dieu et c'est pour ça qu'ils ne s'approchent pas de Dieu. Charlotte Elliott, peut-être vous ne connaissez pas ce nom, mais vous comprendrez. Charlotte Elliott était douée pour la musique et la poésie. Elle aurait pu devenir une star si, à l'âge de 32 ans, elle n'avait pas été atteinte d'une maladie dégénérative qui bouleversa sa vie. Ses souffrances, son handicap et sa dépendance l'ont fait alors sombrer dans le désespoir et la révolte envers Dieu et la foi. Un jour de mai 1822, César Malan, évangéliste suisse et ami de la famille, demanda à Charlotte si elle était chrétienne. « Mêlez-vous de vos affaires, lui répondra-t-elle, avec insolence, et elle perdra le contrôle d'elle-même. Elle éclatera dans un violent accès de colère, elle râlera contre Dieu, contre sa famille. » Puis, après avoir réalisé qu'elle s'était emportée, César va lui dire « Vous êtes fatiguée, vous êtes pleine de haine, de colère, aigrie, amère, rancunière. » Alors elle va répondre « Vous avez un remède ?» Et César va lui dire « Venez à Jésus tel que vous êtes maintenant, avec vos luttes, vos craintes, vos haines, votre colère, votre orgueil, votre péché, votre honte. Je devrais venir tel que je suis ? Est-ce bien cela ? Oui, c'est ce que je vous dis. » Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va s'approprier ses paroles et dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. » Et là, dans les instants qui vont suivre, elle va découvrir Dieu. Et ce Dieu qu'elle avait imaginé d'une certaine manière si dure, elle va découvrir la grâce de Dieu. Elle va découvrir le Dieu de paix. Sa vie va être changée. Et elle va composer un cantique. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, nous connaissons ce cantique. » Et c'est toujours intéressant de voir comment ils sont venus, comment ils ont été inspirés. Et puis une dernière chose que Jésus veut lui faire découvrir, Dieu se trouve en Jésus-Christ. Cette femme, là aussi, quand elle sent la pression de Jésus qui lui parle et elle a envie de s'en défaire, alors elle va dire, elle va parler du Messie. Et Jésus va lui dire, je le suis, moi, qui te parle. C'est d'ailleurs étonnant que Jésus dise ici, je le suis. Parce que chaque fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, chaque fois que Jésus parle avec des Juifs et qu'on lui parle du Messie, qu'on lui demande s'il est, à part quand on approche vers la croix, Jésus dit jamais qu'il est le Messie. C'est étonnant ça, hein? Je pense que ça vient que Jésus ne se retrouve pas dans la conception du Messie des Juifs. Les Juifs, ils attendaient bien le Messie, mais ils attendaient quel Messie ? Pas un Messie souffrant. Ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui les libérera du joug romain. Et Jésus ne se retrouvait pas dans cette conception. C'est pourquoi il a toujours été très prudent quand on l'appelait le Juif, on voulait le faire roi, il se met à l'écart. Mais plus il arrivera vers l'œuvre de la croix, plus il parlera ouvertement de qui il est. Mais à cette Samaritaine, c'est étonnant, parce qu'il lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Et Jésus va effectivement se placer comme celui qui est incontournable. Et ces hommes vont découvrir qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tu as besoin de Jésus. Dieu se trouve en Jésus-Christ, pas en autre. La Bible nous dit que Dieu était en Christ. Je disais hier aux jeunes que Dieu est partout. Mais Dieu ne se trouve pas n'importe où. Il se trouve dans la personne de Jésus. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est paradoxal, hein? Mais Jésus, c'est l'empreinte de sa personne. Il est, je dirais, le bras de Dieu. Il est celui qui nous fait connaître Dieu, celui qui nous révèle Dieu, celui qui fait le lien. Il est incontournable. Tu veux connaître Dieu, tu as besoin de connaître Jésus, de comprendre pourquoi Dieu est venu jusqu'à nous et qu'il a donné sa vie sur la croix. Pourquoi Dieu a eu besoin de se faire homme, de se rendre si petit, si vulnérable. Et pourquoi il a eu besoin de mourir sur la croix, de donner sa vie sur la croix pour le pardon de tes péchés. Tu as besoin de réfléchir là-dessus, d'ouvrir ton cœur. Quand on fixe les regards sur Jésus, alors la révélation se fait. Il y a témoignage d'un ami que j'aime beaucoup. Cet homme aussi venait aux réunions depuis longtemps, il accompagnait sa femme, mais là aussi, le voile ne se déchirait pas. Et puis un jour, il se promène pendant les vacances et il prend ses jumelles, et là il regarde et puis il tombe sur une croix. Et sur cette croix, là, il y a là un Jésus crucifié. Et là, d'un coup, il commence à être bouleversé. Et la croix commence à lui parler. Et il réalise, mais c'est pour moi qu'il est mort. Dieu est venu et il a pris ma place sur le... Et là, il est bouleversé. Et là, il saisit le message. À partir de là, il devient nouvelle créature. Il me disait, j'ai tout compris maintenant. Attends, t'as peut-être pas tout compris. Mais effectivement, le voile avait été déchiré. Simplement parce qu'à un moment donné, ses yeux ont croisé la personne de Jésus. C'est Jésus qu'il faut rencontrer. Et c'est de lui. Peut-être que tu te dis, ça fait longtemps que je viens, mais je capte pas grand-chose. Alors fixe ton attention, arrête-toi sur la personne de Jésus. Comprends ce qu'il a fait sur la croix. Comprends que si tu serais tout seul, Christ serait quand même mort sur la croix. Comprends aussi qu'il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus, c'est ce qui donne un sens tout autre à la croix. Ça en fait une victoire, non pas une défaite. C'est une victoire sur la mort. Tu as besoin de connaître Jésus. Alors retenez ces choses que Jésus a voulu faire comprendre à la Samaritaine et que l'Esprit de Dieu veut vous faire comprendre encore cet après-midi. Tu as besoin de Dieu. Même si tu ne le réalises pas, tu as besoin de Dieu. Même les enfants, vous avez besoin de Dieu. Et puis, l'autre pensée, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Dieu, on n'échappe pas à son regard. Dieu s'intéresse aussi à nous, à chacun d'entre nous, à toi en particulier. Et puis, rappelez-vous aussi que Dieu, je peux le connaître et je peux le trouver en Jésus. En regardant celui qui a donné sa vie pour moi, il est mort, il est ressuscité. Voilà ce que je voulais mettre sur votre cœur, que vous puissiez prendre le chemin de cette Samaritaine. C'est Jésus qui a provoqué l'entretien. Et c'est peut-être moins un peu cet après-midi qu'il provoque pour certains. Mais faites comme cette femme, ne serait-ce pas. Laissez-vous interpeller et arrivez à la conviction de ces Samaritains. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On prie le Seigneur ?